1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien, frères et sœurs. Mais si ce message vous trouve mal en point, physiquement ou spirituellement, ce n'est qu'une meilleure nouvelle parce que, comme l'apôtre Paul nous dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Parce que je peux toutes choses par Christ. Je peux faire toute chose par Christ. Alors que quand je me sens fort, alors je suis faible. Si vous vous rappelez de nos méditations précédentes, nous avons tenté, par la grâce de Dieu, de tirer les leçons de la vie de Saül. Et dans notre dernière étude, nous sommes tout particulièrement concentrés sur le sujet de la volonté de Dieu et notamment de la volonté parfaite de Dieu en contraste avec sa volonté permissive. Vous vous rappelez que nous avons pris du temps pour pouvoir bien discerner que Dieu a en effet une volonté permissive. Et c'est celle à laquelle l'homme a recours lorsqu'il veut faire sa volonté et non pas la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, comme nous l'avons vu dans le cas de la prophétie de Dieu sur le roi qu'Israël se demanderait, eh bien Dieu donne à l'homme ses désirs lorsqu'il s'est entêté à ne pas faire la volonté de Dieu, mais à accomplir ses propres désirs, ses propres plans, ses propres ambitions. Donc on a vu cela. Et j'attire notre attention une fois de plus, ou de nouveau, vers le passage de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, qui, vous l'avez peut-être remarqué, était directement, ou plutôt joignait directement les bouts de nos leçons, vis-à-vis de l'expérience qu'a fait Saül à Gilgal en offrant un sacrifice purement formaliste, et notre étude sur le sujet de la volonté parfaite de Dieu que nous voyons exprimée notamment au verset 2. Je lis à partir du début, Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Quel est notre culte raisonnable? Est-ce simplement d'offrir un sacrifice de forme, un simple culte de forme? Non. Il nous exhorte par l'amour de Dieu, par les compassions de Dieu, à nous offrir nous-mêmes nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ne vous conformez point au présent siècle, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez je lis ici tel que c'est écrit dans la Bible de Martin, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Non pas sa volonté permissive, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Et ici, nous nous tournons pour poursuivre notre méditation dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Donc, nous sommes appelés à ne pas nous conformer à ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit, afin que nous puissions éprouver quelle est cette volonté parfaite de Dieu. Et ici, je lis 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu. Nous sommes en train de l'éprouver. Qu'est-ce que c'est? Que vous soyez sanctifiés. Votre sanctification. C'est ici la volonté de Dieu. Nous voulons la connaître pour ne pas nous conformer à ce présent siècle, ce monde, cette génération, cette société, mais être transformé, non pas être conformé à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre esprit en éprouvant, afin que nous éprouvions quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? C'est ici, en effet, la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés. Versets 4 et 5. Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils qui ne connaissent point Dieu. Donc, connaître, éprouver personnellement, de manière vivante, quelle est la volonté bonne et parfaite de Dieu, c'est lié au fait d'offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu, qui est notre culte raisonnable. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Pourquoi? Pour pouvoir l'offrir à Dieu pur, pour pouvoir l'offrir à Dieu en sacrifice vivant et agréable à lui. Sans nous livrer à des passions déréglées, comme les gentils qui ne connaissent point Dieu, qui ne recherchent point sa volonté parfaite, qui n'ont point d'égard à la volonté de Dieu. Et je lis ici une déclaration très éprouvante, très fascinante de l'esprit de prophétie que nous trouvons dans le livre Conquérant Pacifique à la page 505 et au paragraphe 3. C'est ici, elle cite, c'est ici en effet la volonté de Dieu à votre égard. Que vous soyez sanctifiés. Elle poursuit. Est-ce aussi votre volonté? Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent devant vous, mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité, il vous accordera son pardon et vous purifiera de toute iniquité. Dieu vous demande de vous conformer en tout point à sa loi. Cette loi est l'écho de sa voix qui vous dit « Soyez plus saints, oui, toujours plus saints. » Recherchez la plénitude de la grâce de Christ, que votre cœur soit rempli d'un désir ardent de sa justice, par laquelle la parole de Dieu nous assure que nous obtiendrons la paix et dont le fruit sera le repos et la sûreté pour toujours. Qu'est-ce que vous avez retenu ici? Quel est le message? Nous apprenons que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés. Et ensuite, la question nous est posée. Est-ce aussi votre volonté? Nous connaissons la volonté parfaite de Dieu, c'est notre sanctification, que nous soyons sanctifiés. Mais la question qui nous incombe et qui importe ici, c'est est-ce que c'est aussi ma volonté? C'est vraiment c'est ici la pierre de touche vis-à-vis de cette question de notre sanctification qui est le sujet de notre méditation aujourd'hui. Est-ce aussi ma volonté d'être sanctifié? Parce que c'est la volonté de Dieu et nous le comprenons, mais ce qui déterminera si cela fera partie de mon expérience, si c'est aussi ma volonté. Et ensuite, Dieu, vous voyez que Dieu ne nous laisse pas dans nos découragements et nos doutes et nos peurs de nous approcher de lui. Donc, il nous déclare « Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent devant vous. » De telle sorte que vous dites « Oui, Dieu veut que je sois sanctifié, mais j'ai commis tellement de péchés, j'ai fait tellement d'erreurs. » Mais il dit « C'est peut-être le cas. Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes. Mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité, si je le saisis comme cela par ma foi vivante, que ces choses sont réelles. Que fera-t-il? Il vous accordera son pardon et vous purifiera de toute iniquité, comme il l'a promis dans 1 Jean, chapitre 1. Et donc, quel est cet appel ici? Quel est cet appel à notre sanctification? Il dit, Dieu vous demande de vous conformer en tout point à sa loi. Cette loi est l'écho de sa voix qui vous dit, soyez plus saints, oui, toujours plus saints. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, ici, j'aimerais attirer votre attention vers ce fait que dans l'expérience de la parole de Dieu et du message des trois anges, dont le troisième ange nous déclare que c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, nous n'atteindrons jamais un seuil où nous pouvons obtenir vis-à-vis de nous-mêmes cette satisfaction que nous avons atteint cet objectif que nous visions, vers lequel nous tendions. Parce que l'essence même de la loi de Dieu des 10 commandements est que, comme nous le lisons ici, cette loi est l'écho de sa voix, de la voix de Dieu qui nous dit « Soyez plus saints, oui, quoi ? Toujours plus saints. » De telle sorte que, ici-bas, sur cette terre, frères et sœurs, vous n'arriverez jamais à un moment où vous aurez satisfait toutes les exigences de la loi. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à satisfaire l'exigence qui est la volonté de Dieu, à savoir notre sanctification, mais cela veut dire que la loi aura toujours un point sur lequel elle peut vous dire, étant l'écho de la voix de Dieu, de point, soyez plus saints. Oui, toujours plus saints. Et qu'est-ce que Dieu ajoute à ce genre de langage ? Recherchez la plénitude de la grâce de Christ. Que votre cœur soit rempli d'un désir ardent de sa justice, par sa justice, la parole de Dieu nous assure que nous obtiendrons la paix, et dont le fruit sera le repos et la sûreté pour toujours. Quelle justice? Ma justice? Non. La justice de Dieu par la foi à celui qui croit. Mais comme nous avons vu, c'est une foi qui agit par l'amour, qui est animée par l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas une foi stérile, c'est une foi agissante, mais ce n'est pas notre justice. De telle sorte que nous serons toujours en besoin de la plénitude de la grâce de Christ, parce que la loi de Dieu sera toujours l'écho de la voix de Dieu qui nous dit « Soyez plus saints ». Oui, toujours plus saints. Voilà un élément clé et primordial pour notre compréhension vis-à-vis de notre sanctification. C'est ici la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés. Mais dans cet effort, dans cette activité, on a besoin de comprendre que la loi de Dieu aura toujours quelque chose à rajouter, quelque chose à demander, parce que elle est la représentation, l'expression de la pureté, de la perfection et de la justice de Dieu. Donc la question reste toutefois en suspens. Non pas que nous ne voulons pas y répondre tout de suite, mais nous avons besoin de comprendre que le réel problème vis-à-vis de cette activité de la sanctification dans laquelle Dieu nous appelle, c'est que oui, c'est la volonté de Dieu, mais est-ce aussi notre volonté? C'est la volonté de l'homme qu'il faut changer et qui est le seul élément crucial qui va définir où est-ce que nous nous retrouverons vis-à-vis de cette volonté parfaite de Dieu. Est-ce que nous aurons recours, comme la majeure partie du christianisme moderne aujourd'hui, à la volonté permissive de Dieu, à ce qu'il permet, ou est-ce que nous nous attacherons à ce qu'il demande, ce qu'il exige, ce qui est sa volonté parfaite, à savoir notre sanctification. Et quelle sanctification? J'y reviens parce que c'était notre lecture biblique et je ne l'ai pas marqué autre part, donc il faut absolument que nous y reallions, que nous y revenions. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 23. À quel point Dieu désire-t-il? Nous venons de le voir, mais nous le réitérons ici. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. À quel point Dieu veut-il que nous soyons sanctifiés? Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel genre de sanctification? Une sanctification, que vous soyez sanctifiés, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la promesse, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Hein, c'est sa volonté, il désire le faire. Mais la question se pose, et est-ce aussi votre volonté? Et vis-à-vis de cette question, j'aimerais que l'on se tourne vers l'exemple que Jésus nous a laissé. Quelle était la volonté de Jésus-Christ? Hein? Nous comprenons maintenant que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés tout entiers. Tout ce qui est en nous, que tout cela soit conservé irrépréhensible pour le retour de Jésus-Christ. Mais quand Jésus était sur cette terre, quelle était sa volonté? Comment a-t-il manifesté sa volonté? Qu'a-t-il fait de sa volonté? Dans Jean chapitre 6, verset 38, nous lisons les paroles de Jésus où il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Pourquoi est-ce que Jésus est venu ici? Nous disons, à juste titre, que Jésus est venu pour verser son sang pour nous sauver du péché. J'entends. Cela nécessite des clarifications, mais c'est vrai. Mais ici, Jésus dit, « Je suis descendu du ciel pour faire. » Il ne parle pas de toutes les autres choses que nous avons l'habitude d'entendre vis-à-vis de sa venue sur la terre, mais il dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus est ici en train de présenter un principe vital du christianisme réel, dont il est l'exemple ultime. Il a dit, pour utiliser des termes plus familiers, je suis venu ici non pas pour faire ce que moi je veux, mais pour faire ce que Dieu me dit. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Non pas pour faire ma volonté, suis-je venu, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et vous rappellerez des paroles que Jésus dit, d'ailleurs, vous y allez, pour faire le parallèle entre la vie de Jésus dans son lien avec le Père et notre vie en tant que disciple de Jésus-Christ en lien avec Dieu et Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, verset 18, il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit-il au Père, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, le Père a envoyé le Fils, et ici Jésus dit « Toi, Père, tu m'as envoyé ici, et maintenant, moi, je les envoie dans le monde. » Et donc, maintenant, si nous suivons l'exemple de Jésus, ce que nous sommes appelés à faire, selon la volonté parfaite de Dieu, que nous soyons sanctifiés, eh bien, nous descendrons de notre ciel, de nos conforts et de notre suffisance pour faire non pas notre volonté, mais la volonté de celui qui nous a envoyés dans le monde en nous faisant naître de nouveau par sa parole. Vous voyez le parallèle vivant ici? Et quand vous allez dans Jean chapitre 17, nous y retournons, Jésus dit, chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Quelle était la volonté du Père à l'égard de Christ? La même qu'elle l'est pour nous, à savoir sa sanctification, comme aussi c'est sa volonté que nous soyons sanctifiés. Et Jésus dit, ta volonté parfaite, c'est qu'il soit sanctifié, et je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité de ma sanctification. Et quelle est cette sanctification? Il disait, son esprit, sa mentalité était, je suis descendu pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je me sanctifie moi-même, je ne fais pas ma volonté. Et donc, nous revenons à cette lecture qui nous dit, c'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifié, est-ce aussi votre volonté? Est-ce aussi votre volonté d'être sanctifié? Eh bien, si nous suivons l'exemple de Jésus, c'est aussi ma volonté, ce n'est pas de faire ma volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Et donc, c'est ainsi que nous mettons en harmonie, que nous nous mettons en harmonie avec Dieu, en déterminant, en décidant que je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous allons dans Jean chapitre 5, verset 19 et verset 30. Jésus, prenant la parole, leur dit, « en vérité, je vous dis que le Fils ne peut rien faire de lui-même à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Quel était le raisonnement du chef et de l'auteur de notre salut, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 5. Il a appris par les choses qu'il a souffertes et étant devenu parfait, il est devenu l'auteur du salut. Et ici, nous voyons l'auteur de notre salut à l'œuvre. Comme il l'a dit, je me sanctifie moi-même pour qu'eux aussi soient sanctifiés. Et il dit, en essence, il dit, ma mentalité dans la sanctification dont je leur laisse un exemple, c'est que je ne cherche point ma volonté. Je ne viens pas ici pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Vous tenez ce langage des fois? Vous vous souviendrez de ce qu'il dit dans, je crois que c'est Jean chapitre 15, est-ce là? Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Et il dit, verset 4, demeurez en moi. Et moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, nous pouvons faire beaucoup de choses inutiles. Nous pouvons faire beaucoup de choses mauvaises. Mais sans Jésus, sans que nous demeurions en lui, nous ne pouvons rien faire de bon. Parce que comme il l'avait répondu à l'homme qui lui posait une question, il n'y en a qu'un seul de bon. C'est Dieu. Et donc pour faire le bien, pour faire ce qui est bon, nous avons besoin de demeurer en Dieu et que Dieu, Jésus-Christ, demeure en moi. Car sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, frères et sœurs, souvent nous avons l'impression que nous pouvons faire des choses de notre propre chef. Eh bien, ce n'est pas l'exemple que Jésus nous a laissé. Vous me direz peut-être, mais non, je ne comprends pas cela, je ne raisonne pas selon cette mentalité. Je crois qu'il faut que je demeure en Dieu. Mais souvent, dans notre pratique de tous les jours, c'est une chose qui manque. Je sais que c'est vrai parce que c'est écrit. Parce que le message de Jésus à la Odyssée, c'est tu dis tu es riche et tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre et nu. Mais il nous conseille de tendre l'oreille pour suivre son exemple. Suivre son exemple. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Vous voyez, Jésus avait adopté dans sa vie ce principe qui le régissait et selon lequel il fonctionnait, c'est de ne pas du tout s'attacher à sa volonté, à ses impressions, à son sentiment de capacité. Vous comprenez maintenant? Jésus était dans la même chair pécheresse que nous, et si vous avez cette chair, et vous l'avez, parce que vous m'entendez, que vous êtes sur cette terre maudite par le péché, et dont les habitants sont également corrompus, et naissent avec cette propension au mal, eh bien, vous connaissez ce que cela veut dire d'avoir un sentiment de notre propre capacité. L'esprit de prophétie en parle par le mot suffisance, cet égoïsme. Eh bien, Jésus disait, je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon que j'entends et mon jugement est juste. Pourquoi? Car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Et jusqu'à quel point Jésus a-t-il poussé cette attitude? Vous allez ici avec moi dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 verset 40 à 42. Jésus ici se rendait avec ses trois disciples au jardin de Gethsémané et il dit, et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Voilà jusque dans quel retranchement Jésus a pousser cette attitude de dépendance envers Dieu. Lorsqu'il était dans la plus grande souffrance, la plus grande agonie, il n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas rebellé. Il disait, dans sa souffrance, « Mon Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, si tu veux le faire, toutefois, dans ce combat, toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » La tienne. Ah. Vous voyez, frères et sœurs, c'est de cela dont nous avons besoin, c'est de pouvoir contempler Jésus et de tirer des vraies leçons pour notre sanctification, dont il nous a laissé le parfait exemple. J'aimerais lire une autre déclaration de l'esprit de prophétie encore une fois pour élargir cette méditation dans le livre In Heavenly Places à la page 147 et au paragraphe 4. Il nous faut vaincre notre propre voix. L'orgueil, la suffisance doivent être crucifiés. Hein? Non pas ma volonté. Vous le crucifiez, cet orgueil, cette suffisance. L'orgueil et la suffisance doivent être crucifiés. Mais attention, vous ne faites pas du yoga ici. Et le vide doit être comblé par l'esprit et la puissance de Dieu. Le Dieu réel, le Dieu vivant, le Dieu de sa parole. Ne laissez pas le vide vide. Parce que, comme Jésus l'a dit dans sa représentation, si après avoir été évacué de toute cette possession démoniaque, l'homme laisse sa maison, pour ainsi dire, vide, eh bien, ce démon dont cette maison vient de s'être fait vider, il revient avec d'autres compagnons et ils viennent et la situation de cet homme est pire que la première. Donc, lorsque vous avez vidé, vous vous êtes vidé de cet orgueil, de cette suffisance, le vide doit être comblé par l'esprit et la puissance de Dieu. Nous ne faisons pas de la méditation transcendantale. Nous devons combler ce vide par la puissance de Dieu et son esprit. Et ensuite, la question nous est posée. Jésus-Christ, la majesté du ciel, a-t-il fait ce qu'il voulait? Non, parce qu'il a dit, non pas ma volonté soit faite, mais la tienne. Contemplez-le dans l'angoisse de son âme à Gethsémané, en train de prier son Père. Qu'est-ce qui force ces gouttes de sang, d'agonie de son saint front? Oh, les péchés du monde entier sont sur lui. C'est la séparation de l'amour du Père qui arracha de ses lèvres pâles et tremblantes le cri « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi !» À trois reprises, la prière fut offerte, mais suivie à chaque fois par les mots « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Telle doit être notre attitude. Que ma volonté ne se fasse point, ô Dieu, mais la tienne. Voici la véritable conversion. Et voici aussi la véritable sanctification. Donc, lorsque nous sommes sur ce sentier où nous discernons la sainte et parfaite volonté de Dieu, et que nous discernons aussi le sentier de la satisfaction de nos passions, de nos ambitions, de nos désirs charnels, eh bien, de choisir, ou plutôt d'adopter cette attitude qui dit que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne, c'est marcher sur le chemin véritable de la sanctification, ou sur le chemin de la véritable sanctification. Je relis. Telle doit être notre attitude. Que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Voici la véritable conversion. Et je poursuis ici en lisant ce passage du livre Jésus-Christ à la page 320, paragraphe 3 et suivant. C'est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs au terme de la nouvelle alliance, c'est elle qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. Parce que ici, ce passage se réfère directement aux paroles de Jésus dans lesquelles il dit « Prenez mon joug, chargez-vous de mon joug ». Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 11 et verset 28, etc. Et donc là, on nous dit que c'est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d'amour révélée en Éden, c'est elle qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. Hein, nous sommes appelés à nous conformer, comme nous l'avons lu précédemment, en tout point à la loi de Dieu. Et cette loi est l'écho de la voix de Dieu qui nous dit « Soyez saints, oui, toujours plus saints ». Et c'est cette loi qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons sanctifiés, et Jésus nous a donné un exemple de cette sanctification en se sanctifiant lui-même, et l'attitude qui était la sienne, c'était de dire que ma volonté ne se fasse point, ô Dieu, mais la tienne. Je poursuis. Si nous étions abandonnés à nos propres inclinations, libres d'aller où bon nous plaît, nous ne tarderions pas à rejoindre les rangs de Satan et à lui emprunter ses défauts. Raison pour laquelle Dieu nous enferme dans les limites de sa volonté juste, noble et ennoblissante. Hein? Dieu nous enferme dans les limites de sa volonté juste et noble. C'est comme un parc à brebis pour protéger le troupeau. Ce sont des limites de protection et d'amour. Cette loi d'amour révélée en Éden. Il désire, Dieu désire, qu'avec patience et sagesse, nous remplissions les devoirs du service. Ce joug du service, Christ lui-même l'a porté en son humanité. Jésus lui-même a pris ce joug sur lui avec Dieu le Père, parce qu'il disait « Je ne puis rien faire de moi-même ». C'est le Père qui porte le plus gros du joug. Vous comprenez? De la même manière que nous, il nous dit « Prenez sur vous mon joug ». Il dit aussi autre part, dans l'esprit de prophétie, que c'est lui qui porte le plus lourd de la charge dans cette relation de coopération avec Jésus-Christ. Et donc, je relis ce jour du service que nous sommes appelés à prendre sur nous, cette loi de Dieu qui relie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu, ce jour du service, Christ lui-même l'a porté en son humanité. Il a déclaré, « Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Psaume chapitre 40, le psaume 40, verset 9. Et ici, c'est écrit dans la première partie, comme cela se trouve et comme on peut le lire dans la Bible King James. « Je prends plaisir à faire ta volonté. » Et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Vous avez ici dans cette déclaration de psaume un élargissement de ce que nous venons de lire juste avant, où Jésus disait « je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté. Et quoi ? Ta loi est au-dedans de mes entrailles. » En harmonie avec cette promesse, je crois que c'est Ézéchiel chapitre 31, que Dieu nous fait, qu'il mettrait sa loi dans nos cœurs et qu'il ôterait ce cœur de pierre et nous donnerait un cœur de chair, que nous pourrions recevoir son esprit et naître de nouveau, naître de Dieu, naître de la parole, être ainsi régénéré pour que Christ puisse ensuite nous sanctifier et s'obtenir une épouse pure et sans tache, comme nous l'avions lu la semaine dernière. En conclusion, je poursuis, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'amour de Dieu, le zèle pour sa gloire, et l'amour envers l'humanité induisirent Jésus à venir sur cette terre pour y souffrir et mourir. Telle était la puissance qui régissait sa vie. Tel est le principe qu'il nous invite à adopter. Quel principe veut-il que nous adoptions? Le même qui l'animait. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté du Père. Et là, l'esprit de prophétie élargit cela pour nous aider à comprendre l'amour de Dieu, le zèle pour sa gloire et l'amour envers l'humanité induisirent Jésus à venir sur cette terre pour y souffrir et mourir. Telle était la puissance qui régissait sa vie et tel est le principe qu'il nous invite à adopter. En toute chose, avoir l'amour de Dieu, être animé par cet amour de Dieu, ce zèle pour la gloire de Dieu et l'amour envers l'humanité. Parce que Jésus avait d'ailleurs dit que c'est la loi, ce sont les deux grands commandements, n'est-ce pas? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. C'était le principe, la puissance qui régissait sa vie. Mais si nous l'explorons dans des détails plus fins et plus tranchants et plus réels, nous l'avons vu, cela a à voir avec la volonté qui est la mienne. Est-ce que je suis animé par ma propre volonté ou est-ce que j'adopte ce principe qui régissait la vie de Jésus-Christ, à savoir de chercher non pas ma volonté, mais la volonté du Père, comme nous l'avons vu. Je poursuis. Il en est beaucoup dont les cœurs gémissent sous le poids des soucis parce qu'ils cherchent à se conformer aux règles du monde. Ils ont décidé de le servir, le monde. Ils ont accepté les embarras qui en résultent et ils ont adopté ses coutumes. En conséquence, leur caractère est déformé. Leur vie épuisante. Pour donner satisfaction à leurs ambitions et à leurs désirs mondains, ils blessent leur conscience et se créent ainsi un fardeau supplémentaire, celui du remords. Les préoccupations constantes drainent les forces vitales. Notre Seigneur leur demande de se débarrasser de ce joug d'esclavage et les invite à accepter son propre joug. « Mon joug est aisé, dit-il, et mon fardeau léger. » Il les exhorte à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, avec l'assurance que toutes les choses nécessaires leur seront ajoutées. Celui qui se tourmente est aveugle, incapable de voir l'avenir. Mais Jésus voit la fin dès le commencement. Pour chaque difficulté, il a un soulagement tout près. Notre Père Céleste dispose de 1000 moyens de nous venir en aide dont nous n'avons aucune idée. Ceux qui acceptent le principe consistant à placer le service et l'honneur de Dieu au-dessus de tout, verront s'évanouir leur perplexité et s'ouvrir devant leurs pieds un sentier uni. Donc ici cette parenthèse vis-à-vis des anxiétés de la vie et sous le poids des soucis, l'esprit de prophétie vient la relier au principe consistant à placer le service et l'honneur de Dieu au-dessus de tout. Ou autrement dit, de placer la volonté de Dieu au-dessus de notre volonté. De placer le service et l'honneur de Dieu au-dessus de tout. Et ceux qui font cela, ceux qui acceptent ce principe, verront s'évanouir leur perplexité et s'ouvrir devant leurs pieds un sentier uni. Alors que lorsque nous sommes contaminés par l'esprit du monde et que nous gémissons sous le poids des soucis parce que nous avons cherché à se conformer aux règles du monde ou, autrement dit, aux façons dont le monde fonctionne et dont le monde semble et par lesquelles le monde semble obtenir du réconfort, lorsque nous avons fait cela, que nous avons décidé de servir le monde, que nous avons accepté ses embarras et que nous avons adopté ses coutumes, dans quelque degré que cela puisse être, eh bien notre caractère en devient déformé et nous en sommes épuisés. Et à la lumière de cela, donc, Jésus, lorsqu'il nous voit souffrant comme cela, il vient comme le Rédempteur miséricordieux et aimant et compatissant qu'il est, et il nous invite à prendre sur nous son joug, qui est aisé et qui est léger. Au seul prix de notre volonté. Le joug est aisé et le fardeau léger lorsque nous consentons à chercher non pas notre volonté, à chercher non pas à accomplir notre volonté, mais à accomplir la volonté seule de Dieu. Pas simplement, pas plutôt accomplir un peu de la volonté de Dieu et un peu notre volonté, mais à consentir, à nous soumettre à la volonté parfaite de Dieu en toutes choses et à nous reposer dans l'assurance que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes les choses qui nous sont nécessaires nous seront ajoutées. Et maintenant, j'aimerais, avant de conclure notre méditation sur le sujet de la sanctification, justement lire quelque chose qui nous permet de cerner et d'avoir une compréhension équilibrée de ce sujet que nous avons exploré aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et ici, je me tourne vers le livre « La vie sanctifiée ». Dans le chapitre 1, il n'y a pas de pagination. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et cela vient du livre en anglais « My Life Today » à la page 248 et au paragraphe 2 à 5. Et dans la vie sanctifiée, ce sont plusieurs extraits pris qui sont séparés les uns des autres par quelques espaces. Je lis. La sanctification qui nous est présentée dans les Saintes Écritures a trait à l'être tout entier, de point l'esprit, l'âme et le corps. C'est là la véritable notion de consécration totale. Ainsi, Paul a prié pour que l'Église de Thessalonique puisse jouir de cette grande bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La véritable sanctification, écoutez, cela revient sur ce que nous avons contemplé, la véritable sanctification consiste à se conformer totalement à la volonté de Dieu. Les pensées et les sentiments rebelles sont vaincus dans la véritable sanctification lorsque nous nous y engageons réellement. Les pensées et les sentiments rebelles sont vaincus et la voix de Jésus fait naître une vie nouvelle qui pénètre l'être tout entier. Ceux qui sont réellement sanctifiés ne prendront pas leur propre opinion comme norme du bien et du mal. Je ne chercherai pas à définir selon mes propres impressions ou mes propres désirs ou en harmonie avec mes propres pratiques le bien et le mal. Ils ne seront pas bigots ou propres justes. Je ne serai pas suffisant de ma propre justice. Je n'aurai pas une idée de moi-même supérieure à ce que je suis vraiment. Ils ne seront pas bigots ou propres justes, mais ils se tiendront sur leur garde, craignant toujours qu'une promesse leur ayant été donnée, ils n'arrivent pas à se conformer aux conditions fondamentales qui régissent les promesses. La sanctification biblique ne consiste pas en émotions fortes. Notez bien, frères et sœurs, c'est très important que nous puissions saisir cette réalité. La sanctification biblique ne consiste pas en émotions fortes, fortes émotions. C'est ici que plusieurs tombent dans l'erreur. Ils prennent leurs sentiments pour critère. S'ils ne ressentent pas la joie, s'ils ne ressentent pas de la joie ou de l'exaltation, pardon, je relis. S'ils ressentent de la joie ou de l'exaltation, ils se disent sanctifiés. Les sentiments heureux ou l'absence de joie ne sont pas une évidence que la personne est ou n'est pas sanctifiée. Vous avez retenu? Le fait que j'ai des sentiments heureux ou l'absence de joie et de sentiments heureux, cela n'est pas une évidence que je suis ou que je ne suis pas sanctifié. Donc le fait que je n'ai aucun, que vous vous levez le matin et vous n'avez pas de sentiments heureux, est-ce que cela veut dire, est-ce un indicateur fidèle que vous n'êtes pas sur le sentier de la sanctification? Est-ce un indicateur que vous êtes infidèle parce que vous n'avez pas de sentiments heureux? Non, ce n'est pas la norme de la parole de Dieu. La norme de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous pouvons comparer nos actions à cette parole, ce n'est que cette comparaison-là qui est valable. Et quand bien même, comme nous l'avons vu au tout début de notre méditation, quand bien même nos péchés s'élèvent devant nous comme des montagnes qui nous semblent nous séparer de la présence et de l'amour de Dieu, eh bien Dieu nous appelle quand même à venir à lui en précisant simplement cela, que nous humilions nos cœurs, et je relis, et que nous confessions nos fautes, et que nous mettions notre confiance dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Et alors, il nous accordera son pardon et nous purifiera de toute iniquité. Donc, si nous nous sentons heureux, ce n'est pas une preuve que nous sommes sanctifiés. Et si nous nous sentons malheureux ou que nous n'avons pas, que nous avons une absence de joie, pour reprendre les mots, ce n'est pas une évidence que la personne est ou n'est pas sanctifié. La sanctification instantanée n'existe pas. Qu'est-ce que c'est la sanctification instantanée? Vous vous posez la question, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ce n'est pas un terme qui est commun. Vous n'avez peut-être pas entendu cela dans le passé. Mais c'est un mot qui est utilisé ici par l'esprit d'inspiration pour définir cette conception de la vie chrétienne que beaucoup ont adopté dans le christianisme moderne. Une sanctification instantanée. Donc, quelle est-elle? C'est une sanctification ou une idée de la vie chrétienne qui est basée, qui se fonde sur les émotions fortes, comme nous l'avons lu juste avant. La sanctification biblique ne consiste pas en émotions fortes. Mais aujourd'hui, le christianisme moderne se base, fonctionne selon une idée que si nous n'avons pas d'émotions fortes, alors nous ne sommes pas sur ce sentier de la marche avec Dieu. Et donc, nous sommes sans cesse dans ce fonctionnement-là, ce raisonnement-là, ce christianisme-là, sans cesse à la recherche de nouveaux moyens de pouvoir susciter nos émotions fortes afin de pouvoir avoir cette impression que nous sommes sur le sentier de la sanctification. Mais nous lisons que la sanctification instantanée, cela n'existe pas. Et cela poursuit, pour expliquer cela, la véritable sanctification est une œuvre quotidienne qui doit se poursuivre aussi longtemps que durera la vie. Et dans la vie, il se peut que vous ayez des hauts et des bas dans les sentiments. Mais vous pouvez, nous pouvons, frères et sœurs, si nous suivons l'exemple de Jésus, avoir une marche non interrompue avec Dieu, où toutefois nos sentiments peuvent vaciller. Mais nous faisons face à ces oscillations par la foi. Nous traversons ces nuages qui semblent annihiler notre expérience ou le fondement de notre assurance en Dieu. Nous les transperçons par la foi et ainsi nous poursuivons sur ce sentier de la sanctification, de la véritable sanctification, qui est une œuvre quotidienne et qui n'est pas instantanée et qui n'est pas fondée sur des sentiments heureux ou sur des émotions fortes. Je poursuis. Ceux qui luttent avec des tentations quotidiennes, triomphant de leur propre tendance pécheresse et cherchant à acquérir la sainteté du cœur et de la vie, ne présente aucune prétention vaniteuse de sainteté. Ils ont faim et soif de justice. Le péché leur apparaît d'un caractère excessivement grave. Et d'où l'expression d'encouragement de l'amour de Dieu que nous avons lu précédemment, où Dieu nous dit « Quand bien même tes péchés seraient comme une montagne, viens à moi, car je t'ai racheté, comme c'est écrit dans Ésaïe. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ce qui marche vraiment sur ce sentier de la véritable sanctification, quelles seront leurs expériences? Ils luttent avec des tentations quotidiennes. Donc leurs émotions ne sont peut-être pas toujours favorables à leurs impressions d'être sur le sentier de la sanctification. Vous comprenez? Ceux qui luttent avec des tentations quotidiennes, triomphant de leur propre tendance pécheresse et cherchant à acquérir la sainteté du cœur et de la vie, ceux-là, ils ne présentent pas de prétention de sainteté. Ils ne présentent aucune prétention vaniteuse de sainteté. Donc ce que nous sommes en train d'apprendre ici, et d'entendre de Dieu, c'est que lorsque nous marchons sur le sentier de la sanctification, il nous viendra des moments où, selon les émotions, nous serons en danger de perdre notre assurance que nous sommes toujours sur ce sentier. Parce que si nous cherchons à triompher de nos propres tendances pécheresses et à acquérir la sainteté du cœur et de la vie, eh bien, nous marchons sur ce sentier. Et c'est une œuvre quotidienne qui doit se poursuivre aussi longtemps que durera la vie. Rappelez-vous, la loi de Dieu, c'est l'écho de la voix de Dieu nous disant « Plus saint, oui, toujours plus saint. » La véritable sanctification, ce n'est rien de moins qu'une mort quotidienne à soi-même et une conformité quotidienne à la volonté de Dieu. La véritable sanctification, c'est cela. Une mort quotidienne à soi-même et une conformité quotidienne à la volonté de Dieu. Et est-ce un chemin parsemé de roses? De pétales de rose? Non, vous avez vu dans la vie de Jésus qu'il a souffert parce qu'il nous a laissé cet exemple de la véritable sanctification. Et lorsqu'il a poussé à ses plus profonds retranchements cette attitude de soumission à la volonté de Dieu, eh bien, c'en est arrivé à un point où des grumeaux de sang sortait de ses pores. Parce qu'il n'a pas permis à sa volonté de prendre le dessus sur la volonté sainte et parfaite du Père. La véritable sanctification, ce n'est rien de moins qu'une mort quotidienne à soi-même et une conformité quotidienne à la volonté de Dieu. Et pour finir notre méditation, je vous invite, frères et sœurs, à vous tourner vers le passage de 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Versets 2 et 3. Pardon. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Et 2. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher. Afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Christ a souffert dans son humanité, qui est la nôtre, parce qu'il était armé de ce principe qui régissait toute sa vie, et nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous armer de cette même pensée, à adopter ce même principe qui nous mène vers ce résultat. Parce que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, plus selon nos désirs, nos passions, nos ambitions, nos plans, mais selon la volonté de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu. C'est notre appel à nous armer de cette même pensée. Cette même pensée, comme c'est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, j'y vais juste un bref instant. Ayez en vous quoi? Les mêmes sentiments. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Cette même pensée. Non, que ma volonté ne se fasse point, mais ta volonté. Mais la tienne, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Or, que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous rende parfait, ferme, fort et inébranlable, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.